Lorsqu'Israël aura pris possession de la terre promise, toutes les familles devront remplir un panier avec les fruits de la première récolte. Cette cérémonie formelle sera suivie d'un discours déclarant la reconnaissance du peuple à l'Éternel. Je continue le texte du chapitre 26. « Alors tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y a émigré avec une poignée d'hommes et ils y sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. » Verset 5. Cet Araméen errant est Jacob, dont le nom fut changé en Israël, le père des 12 tribus. Il fut d'abord obligé de fuir la maison familiale, puis celle de son beau-père, où il avait demeuré 20 ans et épousé ses 2 filles. C'est de là qu'il était revenu dans le pays de Canaan, d'où, pour échapper à la famine, il avait émigré en Égypte avec une famille de 70 personnes. Et maintenant, le peuple, né de ses 12 fils, allait posséder toute cette terre que Jacob avait habitée en étranger. C'est pour cela que cette cérémonie rendait hommage à l'Éternel pour le don de ce bon pays. Je continue le texte. « Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Alors nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, et il a entendu nos plaintes. Il a vu notre misère, notre peine et notre détresse et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau de ce pays où ruisselle le lait et le miel. C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui réside au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'aura accordés à toi et à ta famille. » Verset 6 à 11. Cette confession sera récitée par les Juifs chaque année lors de la Pâque, ainsi que le jour qui suivait la présentation de la première gerbe lors de la fête des premiers fruits. C'est ainsi que chaque Israélite se reconnaissait au bénéfice de l'action divine dans l'histoire de son peuple. Au cours du repas accompagnant cette cérémonie, les Lévites et l'étranger devaient être invités. Le fil conducteur d'une majorité d'articles de la loi est de partager la bénédiction divine avec ceux qui sont démunis. Je continue le texte. « Tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme. Quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur toutes les récoltes et que tu l'auras distribuée aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils aient de quoi manger à satiété, là où tu habiteras, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré, et je l'ai distribué aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, conformément aux ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Je n'ai mangé aucune part de cette dîme pendant que j'étais en deuil. Je n'en ai rien prélevé pour un usage impur, ni rien donné pour une cérémonie funèbre. J'ai obéi à l'Éternel mon Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Regarde donc du haut de ta demeure sainte, du haut du ciel, et bénis ton peuple, Israël, et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais promis par serment à nos ancêtres. Un pays où ruisselle le lait et le miel. » Versets 12 à 15. Cette troisième année était appelée l'année de la dîme. Outre la dîme annuelle, on en prélevait une autre, la dîme de la charité. Cette année terminait un cycle de 3 ans au terme duquel l'Israélite devait s'examiner devant Dieu afin de s'assurer que rien ne manquait à ses offrandes, qu'il n'avait rien gardé pour lui-même et que toutes ses dîmes avaient été utilisés pour des repas sacrés de réjouissance et de bienfaisance, offert aux Lévites, aux démunis et aux étrangers. La dîme, ou sa valeur en argent, ne devait pas être employée aux achats rendus nécessaires par un deuil ou pour faire des présents de condoléances. Le contrôle humain étant impossible, il était remplacé par une prière solennelle qu'un tricheur hésiterait à formuler. Toutes ces lois, aussi nombreuses que diverses et qui concernent les différents domaines de la vie sociale et familiale d'Israël, ont pour objectif la pratique de la justice. J'ai déjà insisté sur le fait que l'Éternel se soucie grandement de protéger les plus faibles et les démunis, ainsi que les droits de la femme. Il désire que son peuple s'entraide. Ce chapitre se termine avec une exhortation finale qui sert de conclusion à l'énoncé de toute la loi. Je la lis. « Aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous ordonne d'appliquer ses ordonnances et ses lois. Vous y obéirez et vous les appliquerez de tout votre cœur, de tout votre être. Vous avez obtenu aujourd'hui cette déclaration de la part de l'Éternel qu'il serait votre Dieu si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, en obéissant à ses ordonnances, ses commandements et ses lois, et en écoutant sa parole. À son tour, l'Éternel vous a fait déclarer aujourd'hui que vous serez pour lui, comme il vous l'a dit, un peuple précieux et qui obéit à tous ses commandements. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire, en renommée et en dignité au-dessus de toutes les nations qu'il a créées. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. » Versets 16 à 19. Israël fait de l'Éternel son Dieu, et lui fait d'Israël son peuple. Ce dernier passage fait ressortir toute la solennité de l'engagement que les deux parties ont contracté, l'un vis-à-vis de l'autre. Le peuple promet fidélité et obéissance à son Dieu, qui à son tour garantit sa bénédiction et son secours. Tout au long des pages du texte sacré, l'Éternel a conclu des alliances avec l'humanité, à commencer par Adam, puis Noé, Abraham et maintenant Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Certaines de ces alliances sont inconditionnelles, comme avec Abraham, à qui l'Éternel a promis une postérité et un pays. Dans ce cas, Dieu accomplit ce qu'il a résolu indépendamment du comportement humain. Avec Israël, il en est tout autre, car il s'agit d'un contrat dûment conditionné par l'obéissance du peuple. Ceci nous amène au chapitre 27 avec le troisième grand discours de Moïse. La première chose que le peuple devra faire une fois entré en Canaan sera de graver la loi sur la pierre et de ratifier de sa bouche les bénédictions et les malédictions qu'elle contient. Je commence à lire. Moïse, accompagné des responsables d'Israël, donna au peuple les ordres suivants. Vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous traverserez le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, vous érigerez de grandes pierres et vous les enduirez de chaux. Dès que vous aurez traversé le fleuve, vous inscrirez toutes les paroles de cette loi sur ces pierres. Ainsi vous entrerez dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, un pays où ruisselle le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous l'a promis. Versets 1 à 3. Selon l'usage des Orientaux, la surface inégale de la pierre était recouverte d'une couche de chaux sur laquelle on gravait ensuite le texte. Puis, il était peint en noir. Dans le climat sec de la Palestine, il restait ainsi longtemps visible. C'est la charte de l'Alliance, les 10 commandements et un sommaire de la législation de Moïse qui furent ainsi écrits sur la pierre. Je continue. Après le passage du Jourdain, vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal, comme je vous le commande aujourd'hui, et vous les enduirez de chaux. Au même endroit, vous construirez un autel à l'Éternel votre Dieu, avec des pierres qu'aucun ciseau de fer n'aura encore touchées. C'est en pierre brute que vous bâtirez l'autel de l'Éternel votre Dieu, et vous lui offrirez sur cet autel des holocaustes ainsi que des sacrifices de communion. Vous mangerez ces derniers sur place et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Puis vous graverez sur les pierres, en caractères bien lisibles, toutes les paroles de cette loi. Verset 4 à 8. Comme les malédictions devaient être prononcées sur le mont Ébal, c'est à cet endroit que sont dressées les pierres, qui serviront de témoins contre les violateurs de la loi. C'est aussi pour cette même raison qu'est dressé l'autel destiné au sacrifice d'expiation des péchés. Une partie de la viande provenant des victimes était consommée dans de joyeux repas de fête. Je continue. Ensuite, Moïse, assisté des prêtres lévites, s'adressa encore à tout Israël en disant « Fais silence, ô Israël, et écoute. Aujourd'hui, vous êtes devenu le peuple de l'Éternel votre Dieu. Obéissez donc à la voix de l'Éternel votre Dieu et observez avec soin ses commandements et ses lois que je vous transmets aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna au peuple l'ordre suivant. « Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions en faveur du peuple. Les tribus de Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se placeront sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions. » Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix forte à tous les Israélites. Versets 9 à 14. Il faut se représenter la scène. Le tabernacle, rempli de la présence de Dieu, est au fond de la vallée, et les prêtres de la tribu de Lévi l'entourent. Ils regardent vers le mont Garizim et prononcent les bénédictions auxquelles 6 tribus, c'est-à-dire la moitié du peuple, répondent « Amen ». Puis ils se tournent vers le mont Ébal et prononcent les malédictions auxquelles les 6 autres tribus répondent « Amen ». Répondre « Amen », c'est souscrire personnellement et donc ici accepter de subir la malédiction en cas de désobéissance. Le texte énonce ensuite 11 malédictions personnelles spécifiques qui seront appliquées aux Israélites s'ils désobéissent à la loi et en particulier aux 10 commandements. Ce pays a été donné sans condition à Abraham et à ses descendants. Cependant, leur présence à l'intérieur de ses frontières est conditionnelle à leur obéissance. Chaque génération doit s'acquitter de ce loyer, en quelque somme, auprès de l'Éternel. Ce chapitre se termine avec la 12e malédiction que je cite. « Maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi et néglige de les appliquer. » Et tout le peuple répondra « Amen ». Le caractère général, sommaire et menaçant de cette sentence qui condamne sans appel une quelconque violation de la loi veut tout dire et se passe de commentaires. Nous voici arrivés au chapitre 28 qui esquisse l'avenir du peuple d'Israël. Moïse annonce d'avance qu'il va être chassé de son pays. Je commence à lire. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Verset 1 à 2. Ce discours commence avec la conjonction si, qui souligne bien la nature conditionnelle du traité d'alliance. Pour que le peuple se rende bien compte de la portée des bénédictions et des malédictions qu'il doit prononcer sur lui-même, Moïse lui expose en détail les biens que lui attireront sa fidélité et surtout les fléaux qui le puniront de sa rébellion. Les menaces seront développées avec beaucoup plus d'ampleur et de force que les promesses, car l'homme est davantage impressionné par la sévérité de Dieu que par sa bonté. Je continue. « Vous jouirez de ses bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. Versets 3 à 6. Les 6 bénédictions mentionnées concernent le bien-être de toutes les familles. Les Israélites seront bénis en tout lieu, avec un foyer épanoui, par la fertilité du sol, par de nombreux troupeaux, par une nourriture abondante, et enfin, dans tous les déplacements. C'est comme si aujourd'hui, Dieu me promettait la bénédiction partout où je vais, une vie de famille agréable et sans pépins, un travail satisfaisant et qui rapporte, la satisfaction de tous mes désirs, ainsi que la protection en voyage sur la route ou contre les terroristes. Les bénédictions suivantes sont données au peuple dans son ensemble. Je continue. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils auront du respect pour vous. Versets 7 à 10. À la bénédiction sans égale qui sera accordée à Israël, tous les peuples reconnaîtront que l'Éternel, invoqué par les Juifs, est le seul vrai Dieu. Certaines bénédictions sont répétées, puis viennent les malédictions qui ont aussi un caractère prophétique. Je continue plus loin dans le texte. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétail. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Versets 15 à 19. Avec ce début de paragraphe, par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, on constate une fois de plus le caractère très conditionnel de ce traité d'alliance. Tout d'abord, sont énoncées 6 malédictions sommaires correspondant à l'inverse des 6 bénédictions du passage précédent. Ensuite, l'Éternel donne les détails plutôt horribles des calamités qui s'abattront sur le peuple d'Israël devenu rebelle. Des fléaux divers sont cités pêle-mêle, épidémies et maladies de tout genre, dont 10 sont mentionnées spécifiquement. Je les cite pour mémoire et pour montrer l'acharnement de l'Éternel à détruire son peuple rebelle. La peste, des fièvres, des inflammations, 4 maladies éruptives, ulcères, hémorroïdes, gales et pustules incurables. Et enfin, les 3 dernières qui sont mentales, la folie, l'aveuglement et l'égarement d'esprit. Puis d'autres calamités sont ajoutées, l'échec en toute entreprise, la disette, la guerre, la dévastation et finalement la déportation. On peut aussi remarquer dans la répétition des menaces une certaine gradation. Au fil du temps, les mêmes fléaux se feront sentir avec une intensité croissante jusqu'à la ruine complète et la captivité en terre étrangère. Je continue un peu plus loin. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours. Versets 30 à 31. La famille, la maison et la vigne, ainsi que des troupeaux prospères, constitue les quatre éléments fondamentaux du bonheur de l'Israélite. Tout cela sera anéanti par Dieu. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.